Je suis dans le premier chapitre du livre des Nombres où a lieu le recensement de tous les Israélites. Cela faisait partie du peuple de Dieu par leur naissance. Par analogie, il en est de même des chrétiens. On le devient en naissant dans la famille de Dieu. Il s'agit bien sûr d'une naissance toute spirituelle, comme le confirme le passage suivant. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, qu'ils le sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance normale, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit « il vous faut renaître d'en haut ». Fin de citation. Je continue le texte du livre des Nombres. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon leur maison, les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Versets 17 à 18. La convocation eut lieu le jour même, mais nous ne savons pas combien de temps dura le recensement. Ce qui est sûr, c'est qu'il eut lieu dans toutes les tribus simultanément et fut grandement facilité par l'organisation que Jéthro, le beau-père de Moïse, lui avait conseillée et qui se trouve dans le livre de l'Exode. Je rappelle de quoi il s'agit en lisant le passage. Moïse suivit le conseil de son beau-père et fit tout ce que celui-ci lui avait suggéré. Il choisit dans tout Israël des hommes capables et les plaça à la tête du peuple comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Fin de citation. Une telle institution est parfaitement conforme à l'organisation patriarcale des tribus nomades qui sont réunies par clans ou groupes de familles. Je continue le texte. Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Ruben dont on fit le dénombrement furent 46 500. Versets 19 à 21. Je vous fais grâce de l'enregistrement de toutes les autres tribus. Dans le recensement que firent Moïse, Aaron et les chefs militaires, les chiffres indiqués pour chaque tribu sont toujours arrondis par centaines, sauf pour la tribu de Gad où l'on descend à la cinquantaine. Il était facile de faire la somme de ces groupes déjà constitués grâce à Jéthro, le beau-père de Moïse, je le rappelle. De plus, l'organisation de la tribu patriarcale pouvait de cette manière être très facilement transformée en corps d'armée. Je continue plus loin à partir du verset 45. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leurs pères depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement furent 603 550, versets 45 à 46. Ce nombre considérable, qui suppose une population totale de plus de 2 millions de personnes, atteste l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, Isaac et à Jacob. Il est quelque peu difficile de se représenter cette masse énorme de peuple parcourant un désert pendant 40 ans avec ses troupeaux et ses bagages. Certes, la région était alors beaucoup plus fertile qu'aujourd'hui, mais cela pose quand même des questions auxquelles il n'est pas facile de répondre. Les critiques de la Bible disent bien sûr que ces chiffres sont impossibles. Cependant, on les retrouve à plusieurs reprises dans les traditions historiques, donc ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agit pas d'une erreur de copiste. Mais comme ce n'est pas moi qui vais résoudre l'équation, alors je continue. Les Lévites, en tant que tribu patriarcale, ne furent pas recensés avec les autres tribus. En effet, l'Éternel avait dit à Moïse, « N'inclus pas la tribu de Lévi dans le recensement et ne les compte pas avec les Israélites. » Versets 47 à 49. Cela ne signifie pas que les Lévites ne devaient pas être comptés, mais qu'il ne fallait pas les inclure dans le recensement ayant en vue l'organisation de corps d'armée. Cette exclusion est justifiée par les fonctions cultuelles qui leur incombaient dans le sanctuaire. C'est aussi ce qui explique la place qu'ils occupaient dans le camp autour du tabernacle afin de protéger le peuple de la sainteté de l'Éternel. Je continue le texte. Charge-les du service du tabernacle qui abrite l'acte de l'Alliance, de tous ses ustensiles et de tout son matériel. Ce sont eux qui transporteront le tabernacle avec tous ses accessoires et qui en assureront le service. Ils camperont autour du tabernacle. Quand il sera déplacé, les Lévites le démonteront, puis ils le dresseront au nouveau campement. Tout membre étranger à leur tribu qui en approchera sera puni de mort. Les Israélites camperont chacun dans l'aire qui leur sera assignée sous sa bannière et selon leur corps d'armée. Les Lévites camperont autour du tabernacle qui abrite l'acte de l'Alliance pour que ma colère ne s'abatte pas sur la communauté des Israélites. Les Lévites prendront soin du tabernacle, les Israélites obéiront à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils les accompliront. Versets 50 à 54. Les fonctions des Lévites sont ici brièvement résumées. Elles seront détaillées dans deux des chapitres suivants. Cette tribu sacerdotale faisait tampon entre l'Éternel et les 12 tribus qui, bien sûr, se rendaient constamment coupables devant lui. Les Lévites, eux, se purifiaient rituellement en suivant des rites compliqués et contraignants de façon à pouvoir assumer le service du sanctuaire sans subir le jugement de l'Éternel. La sévérité de Dieu enseigne à une humanité pécheresse qu'il est trois fois saint et que nous sommes tous entachés du mal sous une forme ou sous une autre. Dans les premiers chapitres du livre des Nombres, Israël déclare obéir à plusieurs reprises. Cette attitude de soumission contraste fortement avec les événements qui suivront plus tard. Nous voici arrivés au chapitre 2 du livre des Nombres. Précédemment, le recensement a eu lieu et tous les Israélites aptes à servir dans l'armée ont été enrôlés. De plus, chaque individu sait qui il est, à quelle famille il appartient et qui sont ses ancêtres. De plus, il adjoint à son nom celui du fondateur de sa tribu. Maintenant, la position de chaque clan par rapport au tabernacle va être décidée par l'Éternel, que ce soit en station ou en marche, et c'est toujours ainsi qu'ils seront ordonnés. Je commence à lire. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Les Israélites camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de son groupe familial, à une certaine distance autour de la tente de la rencontre. Versets 1 à 2. Chaque tribu a sa bannière et chaque groupe de trois tribus son enseigne, mais les Écritures ne nous donnent aucune indication concernant leur nature. Selon la tradition des rabbins, chacune des bannières était de la couleur de la pierre précieuse qui la représentait. Ces 12 joyaux étaient enchâssés dans le pectoral qui faisait partie de l'habit officiant du grand prêtre Aaron. Toujours d'après la tradition, chaque enseigne portait une figure symbolique. Le lion pour Judas, le bœuf pour Éphraïm, l'aigle pour Dan et l'homme pour Ruben. Ces indications ne sont pas vérifiables. Comme dans tous les camps orientaux, la tente du roi, ici le tabernacle, se trouvait au centre du campement. Je continue. À l'est, campera la tribu de Juda sous sa bannière, rangée par corps d'armée sous la direction de son chef. Total des hommes recensés dans le camp de Juda, 186 400 hommes pour les trois armées. Ils ouvriront la marche. Versets 3 et 9. Alors que la tribu de Ruben, le fils aîné de Jacob, est mentionnée en premier lors du recensement, ici c'est celle de Juda qui est à la tête de la première division ou premier corps d'armée avec les tribus d'Issacar et de Zabulon. Ils sont tous trois fils de Léa. Situés sur le côté oriental lorsqu'ils campent, dans les marches, ils sont en tête de toute la colonne et forment l'avant-garde de l'armée. Je continue. Au sud se dressera la bannière du camp de Ruben, rangée par corps d'armée. Total des hommes recensés dans le camp de Ruben, 151 450 pour les trois armées. Ils seront les seconds à se mettre en marche, versets 10 et 16. La seconde division se compose de Ruben avec Siméon, son frère, et Gad. Dans le camp, ils sont au midi, tandis qu'en marche, ils suivent Juda. Je continue. Ensuite partira la tente de la rencontre avec le camp des Lévites au centre des autres camps. Ils partiront dans l'ordre dans lequel ils campent, chacun à son tour, sous sa bannière. Verset 17. Les Lévites et le tabernacle se trouvent au centre de la colonne lors de ces déplacements. Toutefois, le coffre de l'Alliance, le meuble principal du sanctuaire, est porté par des Lévites et ouvrait la marche. Je continue. La bannière du camp d'Éphraïm sera dressée à l'occident et sera rangée par corps d'armée, total des hommes recensés dans le camp d'Éphraïm, 108 100 hommes pour les trois armées. Ils partiront en troisième lieu, versets 18 et 24. La troisième division se compose d'Éphraïm avec Manassé et Benjamin, tous descendants de Rachel, la préférée de Jacob. Il s'agit de ses petits-fils issus de Joseph, son aîné, et de son deuxième fils, Benjamin. Ils sont en tête des deux corps d'armée qui suivent le tabernacle. Je continue. Au nord campera la tribu de Dan, rangée par corps d'armée. Total des hommes recensés dans le camp de Dan, 157 600 hommes. Ils partiront en dernier lieu avec leur bannière, versets 25 et 31. La quatrième division se compose de Dan avec Aser et Nephtali. Dans le campement, ils sont au nord du tabernacle, alors que dans les marches, ils forment l'arrière-garde. Situés à plusieurs kilomètres du début de la colonne, ce sont eux qui subiront les attaques de la part des bandes de pillards. Je finis le deuxième chapitre. Le nombre total des Israélites recensés par groupes familiaux et rangés par corps d'armée était de 603 550 hommes. Les Lévites ne furent pas recensés avec les autres Israélites conformément à l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. Les Israélites firent tout comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils campaient sous leur bannière et partaient par famille et par groupes familiaux. Versets 32 à 34. Ces versets sont à peu près les mêmes que ceux qui terminent le recensement du premier chapitre. Mais cette répétition n'est pas vaine. Ces formules presque identiques sont destinées à souligner l'observation fidèle des ordres de l'Éternel. Dans le premier cas, il s'agit du recensement, alors que dans le second, c'est la place assignée à chaque tribu dans les campements et dans les marches. Maintenant, et finalement, tout est prêt pour le départ. Cependant, il faut bien remarquer le grand soin avec lequel les préparatifs ont été réalisés. Avant de s'élancer dans la grande aventure de la traversée du désert et de la conquête du pays promis, Israël a été rassemblé et recensé sur l'ordre explicite de l'Éternel, afin d'évaluer ses forces militaires et ses ressources qui s'avèrent considérables. Il est organisé de telle sorte qu'il soit un peuple discipliné et en ordre de marche. Une impression de force et d'harmonie se dégage de la description de ce peuple nombreux, militairement bien organisé et obéissant au commandement de Moïse et au-delà de l'Éternel lui-même. Mais au-dessus de tout, ces deux premiers chapitres veulent souligner la place centrale occupée par le tabernacle, qui est appelé la tente d'assignation ou tente de rencontre, et qui est le lieu de la présence divine. Les Lévites, qui incluent les prêtres issus de la famille d'Aaron, sont mis à part pour son service, et c'est autour d'eux que tout Israël est structuré et évolue. Je sais très bien ce que vous pensez. Comment un Dieu d'amour peut-il se présenter comme le chef d'état-major d'une armée et organiser des campagnes militaires? Je vous entends dire, allons, tout ça ne peut qu'être allégorique. Je reconnais que la simple marche des tribus sous leurs bannières respectives fait plus penser à un film à grand spectacle qu'à l'histoire véridique d'une nation dont le Créateur du ciel et de la terre est le souverain. Et encore, nous n'en sommes pas encore aux guerres sanglantes qu'Israël va déclencher contre tous les rois qui sont bien ancrés dans le pays de Canaan. Moi, je ne fais que commenter les textes sacrés, mais personnellement, je crois qu'il y a environ 3500 ans, tout s'est passé exactement comme cela est écrit. Nous voici donc arrivés au chapitre 3 de ce livre. Maintenant, l'ordre règne dans le camp et chacun connaît exactement sa place, non seulement lors des stations, mais aussi quand la nation se déplace. Je commence à lire. Voici la liste des descendants d'Aaron et de Moïse à l'époque où l'Éternel s'adressa à Moïse sur le mont Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. L'aîné s'appelait Nadab, puis vinrent Abihu, Éléazar et Ithamar. Ils étaient prêtres ayant reçu l'onction pour être investis de la fonction sacerdotale. Verset 1 à 3. C'est dans le livre de l'Exode, le deuxième écrit par Moïse, que Dieu avait choisi Lévi comme la tribu destinée à assumer les fonctions du culte. C'est pour cette raison qu'il n'avait pas été inclus dans le recensement à fin militaire qui venait d'avoir lieu. Maintenant, le texte va se pencher sur eux. Avant de faire connaître les ordres de l'Éternel les concernant, le narrateur rappelle ce qui avait été dit précédemment d'Aaron et des membres de sa famille, sous les ordres desquels les Lévites sont placés. L'établissement d'une famille ayant la prêtrise pour vocation est un fait de la plus grande importance dans le développement de la nation d'Israël. Aaron est mentionné en premier parce qu'il est le chef de la famille des prêtres et de tous les Lévites. Moïse n'est cité qu'en raison de sa position privilégiée de prophète et ami de l'Éternel. Ses fils, quant à eux, ne seront que de simples Lévites, des assistants au service du culte. Je continue. Mais Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel dans le désert du Sinaï parce qu'il lui avait présenté un feu profane. Ils n'avaient pas eu d'enfant. Éléazar et Ithamar exercèrent le ministère sacerdotal sous la supervision de leur père Aaron. Verset 4. La mention de la catastrophe qui avait frappé les deux aînés d'Aaron sert à expliquer comment la famille sacerdotale se trouvait réduite à deux fils seulement au lieu de quatre. Je continue. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Fais venir la tribu de Lévi et mets ses membres à la disposition du prêtre Aaron pour qu'il l'assiste. Ils seront à son service et au service de toute la communauté devant la tente de la rencontre pour accomplir les tâches relatives au tabernacle. Ils prendront soin de tous les ustensiles de la tente de la rencontre et seront au service des Israélites pour accomplir les tâches relatives au tabernacle. Donc, Tu mettras les Lévites à la disposition d'Aaron et de ses fils. Ils lui seront attribués comme représentants des Israélites. Versets 5 à 9. Les Lévites ne sont pas associés au sacerdoce. Ils font leur service à l'intérieur de l'enclos du tabernacle, mais il leur est interdit d'y entrer. Seuls les prêtres avaient ce privilège. Ils sont mis au service des prêtres sacrificateurs, tous de la famille d'Aaron. Ils devront se tenir constamment à leur disposition, ainsi qu'à celle des Israélites, pour tout ce qui est nécessaire à la célébration du culte, spécialement des sacrifices. Et ce n'était pas une petite affaire, car le rituel était complexe et devait être strictement respecté. De plus, ce sont eux qui nettoient, remettent les ustensiles à leur place, enveloppent, portent, montent et démontent la tente de la rencontre. Dans un sens, tous les chrétiens sont des Lévites. Ils sont d'une part au service de Jésus-Christ, leur grand prêtre, et d'autre part, au service de tous les hommes envers qui ils sont responsables de faire connaître la personne de Jésus ainsi que la signification de son sacrifice sur la croix. Je continue le texte. « Tu veilleras à ce qu'Aaron et ses fils exercent les fonctions sacerdotales. Celui qui ne serait pas de leur famille et qui s'approcherait du tabernacle sera puni de mort. » Verset 10. Cet avertissement est rendu encore plus solennel par le rappel de la mort des deux fils aînés du grand prêtre Aaron. Et sur ces paroles, je finis pour aujourd'hui.